Donc on va reprendre nos interventions et nos travaux de l'après-midi avec Yves et puis Raphaël, tous deux militants de la CNT, autour du rôle des internationalistes anti-autoritaires dans le cadre de la Commune. Il est clair que s'il y avait des internationalistes anti-autoritaires, il y avait peut-être aussi des internationalistes autoritaires dont on évoquera peut-être le parcours ou ce qu'ils ont tenté de mettre en place pour éviter que cette Commune de Paris soit aussi libertaire qu'on l'aurait souhaité. Voilà, Yves, Raphaël, à vous.
Bah, bonjour. Ce que je vais vous présenter là, c'est en fait un résumé de ce qui est dans le livre que j'ai retravaillé ce matin vite fait, parce que d'après ce que j'ai vu hier, les temps d'intervention par rapport à ce qui avait été écrit étaient un peu compliqués. Donc il fallait raccourcir. Et donc je m'excuse auprès des camarades du bâtiment d'ailleurs, parce que du coup j'ai pas pu assister à ce qu'ils ont fait ce matin. Alors, la place tenue par la tendance qui est entrée dans l'histoire de la Commune sous le terme générique du courant minoritaire est parfois occultée et sous-estimée. Au préalable, il est nécessaire de revenir sur les différentes forces en présence pour bien comprendre. On distingue trois grandes composantes qui sont au centre du mouvement insurrectionnel. Les Jacobins ou néo-Jacobins sont les plus nombreux. Parmi eux, Dieu d'Écluse, vétéran de 1830 et 1848, même si leurs références sont la première Commune de Paris sous la Révolution française et la Constitution de l'An, qui octroie de nombreuses libertés aux collectivités locales, ils demeurent moins centralistes que ne le laisse entendre la terminologie employée. Ils comptent en leur sein des artisans, des artistes, des représentants de professions libérales comme médecins, pharmaciens, juges et également des journalistes. Ils forment plus d'un tiers des membres de la Commune. Les blanquistes, en l'absence de Blanqui, emprisonnés en province par le gouvernement de Thiers, ne regroupent qu'une petite minorité, un peu plus d'une dizaine, qui se prononce pour un État fort et milite pour un socialisme autoritaire favorable à l'établissement d'une dictature au nom du peuple. Ils s'inspirent des événements de 1793. Cette orientation se manifestera dans le choix des investissements au sein de la Commune, comme nous le verrons. Ils conçoivent le communalisme comme étant la libre fédération des producteurs, thèse qui sera reprise ultérieurement par la Fédération jurassienne. Les principales figures de ce courant sont Eudes, Duval, Ranvier, Ferré et Rigaud. Enfin, les internationalistes, c'est-à-dire des membres de l'Association internationale de travailleurs, souvent désignés comme d'inspiration proudhonienne. Ce sont en fait des collectivistes anti-autoritaires, à l'instar de Bakounine ou James Guillaume. Si des personnalités comme Benoît Malon, Eugène Varlin ou Gustave Lefrançais sont les porte-parole éminents des internationalistes, nous verrons que d'autres figures marqueront de leur empreinte, les événements révolutionnaires de 1871, tel l'ouvrier hongrois Léon Frankel, qui était à l'origine de la fondation d'une section allemande de l'AIT à Paris. Quelques blanquistes appartiennent également à la Première Internationale, comme Courbet, Vaillant ou Duval. Il est aussi des individualités inclassables, comme le savant Gustave Flourens, le millionnaire blanquiste Tridon, proche des idées de l'international, vers Morel, Courbet, Jourde et Vallès. La confrontation de ces forces lors des 72 jours que va durer la lutte mettra en évidence le contenu politique spécifique de chaque courant et les divergences réelles apparaîtront au cœur de l'action, indépendamment de l'unité forgée contre l'ennemi versaillais, unité qui ne se démentira pas à l'épreuve des barricades de la semaine sanglante. Appréhender les positionnements des uns et des autres implique de saisir le processus qui aboutit à la constitution formelle de la Commune. Le 15 février, une réunion de gardes nationaux décide de constituer une fédération des compagnies de la garde nationale de Paris afin de lutter pour la défense de la République contre un retour de la monarchie. Là est le ciment qui fédère les acteurs de cette lutte. Une commission est mandatée pour élaborer les statuts de cette organisation. Le 24 février, une assemblée générale réunissant 2000 délégués approuve ces statuts. Le 3 mars, la garde nationale est devenue la fédération républicaine. Les gardes nationaux sont désormais des fédérés. Le comité central désigne une commission exécutive de 5 membres, parmi lesquels on trouve 2 internationaux, Eugène Varlin et Jean-Louis Pindy. Entre la date de sa création et le résultat des élections du 26 mars, le comité central administrera Paris et, en son sein, les internationalistes et les blanquistes géreront les postes les plus importants. Les membres de l'international mandaté sont Varlin aux finances avec Jourde. Le gouvernement de l'hôtel de ville revient à Adolphe Assy, qui semble ne pas avoir été formellement à l'AIT. Les blanquistes ont Édouard Moreau au journal officiel et à l'imprimerie. Duval et Rigaud sont à la préfecture de police, tandis que Eudes est à la guerre. Le 28 mars, à l'issue du scrutin électoral, le comité central des fédérés de la garde nationale programme la commune et lui remet ses pouvoirs. La commune comprend alors 92 élus. Alors moi, en réalité, certains élus étant élus dans 2 arrondissements, et Blanqui, qui avait été élu aussi, mais avait été arrêté alors qu'il était dans le Lot, sur ordre de tiers, le 19 mars. Donc il était en prison. La création du comité de salut public a provoqué la fracture au sein de la commune de Paris. Parmi les membres de la commune, les Jacobins partagent avec les blanquistes une référence similaire, établissent un parallélisme entre la Révolution française et la réalité à laquelle ils sont confrontés, développant de ce fait une vision centraliste du combat à mener. C'est dans ces conditions que Jules Miot propose le 28 avril la création d'un comité de salut public, un type d'organisation hérité de la Révolution bourgeoise de 1789. La nature de ce comité de salut public est définie en 3 articles lapidaires, le 3e spécifiant qu'il aurait les pouvoirs les plus étendus sur toutes les délégations et les commissions et qu'il ne serait responsable qu'à la commune. À l'issue de 2 journées d'âpres discussions, le comité de salut public est créé par 45 voix contre 22 et donc voit l'émergence d'une minorité radicalement opposée à cette proposition. Gustave Lefrançais déclare que les membres de la commune n'ont pas reçu un mandat pour le déposer entre les mains d'un comité quelconque sans l'aveu de leurs électeurs. Charles Longuet, lui, déclare « Ne croyant pas plus aux mots sauveurs qu'aux talismans et aux amulettes, je vote contre. » La minorité refuse de calquer les pratiques mises en place en 1793 et adopte une démarche pragmatique, cherchant, comme l'écrit Malon, sans idées préconçues les mesures efficaces. Ils sont également pour qu'émerge une unité de direction, suggérant la dissolution du comité central source de confusion et l'extension des prérogatives de la commission exécutive. L'article 3 est explicite. Ce comité est conçu comme le moyen de donner à une tendance dirigiste la possibilité d'imposer ses choix, d'éliminer ses adversaires politiques, de coopter les membres des commissions. La minorité autoritaire comporte 19 internationalistes. Andrieux, Arnaud, Avrial, Babic, Charles Bellet, Chalin, Clémence, Cluseret, Frankel, Girardin, Langevin, Lefrançais, Longuet, Pindy, Serraillé, Reiss, Vaillant et Eugène Varlin, auxquels se sont joints Victor Clément, Courbet, Jourde, Austin, Rastoul, Tridon, Vallès et Vermorel. Benoît Malon, qui était absent le jour du vote, se solidarisera avec les minoritaires. Le comité de salut public comprend 5 membres, Arnaud, Meillet, Ranvier, Piat et Girardin. Les minoritaires sont évincés des délégations victimes d'une chasse aux sorcières. Ainsi, les 4 militants de ce courant qui siègent à la commission militaire, Tridon, Varlin, Avrial et Arnold, sont destitués. De même, Vermorel est relevé de son action à la Sûreté Générale, Varlin de l'intendance et Longuet du journal officiel. Malon dénonce un procès de tendance intenté à la minorité socialiste. Ce vote conduit le groupe minoritaire à se retirer des séances jusqu'au 17 mai. Ce 17 mai, il publie un texte dénonçant la dictature du comité de salut public. Texte donc que voici. Par un vote spécial et précis, la commune de Paris a abdiqué son pouvoir entre les mains d'une dictature à laquelle elle a donné le nom de salut public. La majorité de la commune s'est déclarée irresponsable par son vote et à abandonner à ce comité toutes les responsabilités de notre situation. La minorité à laquelle nous appartenons affirme au contraire cette idée que la commune doit au mouvement révolutionnaire, politique et social d'accepter toutes les responsabilités et de n'en décliner aucune, quelque digne que soient les mains à qui on voudra les abandonner. Quant à nous, nous voulons, comme la majorité, l'accomplissement des rénovations politiques et sociales, mais contrairement à son pensée, nous revendiquons au nom des suffrages que nous représentons le droit de répondre seul de nos actes devant nos électeurs sans nous abriter derrière une suprême dictature que notre mandat ne nous permet d'accepter ni de reconnaître. Nous ne présentons donc plus à l'Assemblée nationale que le jour où elle se constituerait en cour de justice que pour juger un de ses membres. Dévoués à notre grande cause communale pour laquelle tant de citoyens meurent tous les jours, nous nous retirons dans nos arrondissements, trop négligés peut-être. Convaincus d'ailleurs que la question de la guerre prime en ce moment toutes les autres, le temps que nos fonctions municipales nous laisseront, nous irons le passer au milieu de nos frères de la garde nationale et nous prendrons notre part dans cette lutte décisive soutenue au nom des droits des peuples. Là encore, nous servirons utilement nos convictions et nous éviterons de créer dans la commune des déchirements que nous réprouvons tous, persuadés que, majorité ou minorité, malgré nos divergences politiques, nous poursuivons tous un même but. La liberté politique, l'émancipation des travailleurs, vive la République, vive la commune. Et c'était donc signé des membres de la minorité qui avaient voté contre. Et Malon, qui n'était pas présent le jour du vote, s'est ensuite solidarisé. L'activité des anti-autoritaires au sein des commissions. Dès sa mise en place, la commune a instauré des commissions, 9 au total, une commission exécutive ayant comme mission de coordonner l'ensemble. Ce schéma découle de la méthodologie issue du comité central. Chaque commission est sous la responsabilité d'un délégué. À l'origine, les minoritaires ont Cluseret à la guerre, Jourde aux finances, Vaillant à l'enseignement, Franquiel au travail et Andrieux au service public. La majorité a investi la commission des subsistances avec Viard, Grousset aux relations extérieures, Rigaud à la Sûreté générale et Proto à la justice. Sur le plan de la participation aux commissions, nous avons dans celle qui traite de travail, industrie et échange, la délégation confiée à Franquel, Malon, Avrial et Thiez. Les autoritaires ont ici un poids réel et il convient de serrer les résultats concrets de cette activité. Plusieurs dispositions témoignent du caractère prolétarien des mesures prises. La remise aux locataires des terres impayées d'octobre 70 à avril 71 et la suspension des poursuites judiciaires menées à leur encontre. La suspension de la vente des objets déposés au Mont-de-Piété, un délai étant de trois ans étant accordé aux débiteurs. Un projet formulé de création d'une organisation sociale donnant aux travailleurs des garanties réelles de secours et d'appui en cas de chômage. Au sujet du Mont-de-Piété, ils avaient voté le fait que les gens qui avaient engagé leurs outils particulièrement pouvaient aller les retirer gratuitement si l'engagement était de moins de 20 francs. Il faut se souvenir qu'à l'époque, un ouvrier qualifié gagnait entre 2 et 3 francs par jour. Dans chaque arrondissement, il est créé des offices de renseignement pour les offres et demandes de travail. Il est à noter que cette disposition sera reprise dans la loi du 22 mars 1882, instaurant la possibilité de fonder des bourses du travail. La suppression du travail de nuit des boulangers est actée. L'application du décret rencontra une vive opposition des patrons de ce secteur et des infractions seront commises. La presse réactionnaire instruira une intense campagne contre cette décision. Et en fait, cette décision sera assez peu appliquée. La possibilité pour les patrons et les administrations d'effectuer des retenues sur salaire et de donner des amendes aux ouvriers est interdite, tandis que l'obligation lors de l'embauche de prêter serment politique à l'échange de type féodal ou professionnel est abolie. Des ateliers abandonnés sont réquisitionnés et confiés à des associations ou coopératives ouvrières. Là, je vous renvoie au texte de nos camarades du bâtiment dans le livre sur des actes de ce colloque. Cette orientation socialiste découle du caractère qu'entend de donner à des auto, les auto-entreprises. Oh, excusez-moi. Cette orientation socialiste découle du caractère qu'entend de donner les anti-autoritaires et internationalistes au mouvement. Choix que Léo Frankel synthétise en déclarant « Nous ne devons pas oublier que la révolution du 18 mars a été faite exclusivement par la classe ouvrière. Si nous ne faisons rien pour cette classe, nous qui avons pour principe l'égalité sociale, je ne vois pas la raison d'être de la commune. » En matière d'éducation, l'action conduite par Vaillant est significative. Alors, on ne va pas s'y attarder, hein. Hugues l'a abordé hier. Si vous n'étiez pas présent ou à l'écoute de Radio Libertaire, vous pourrez retrouver le podcast sur la radio, sur le site de la radio. Sur le plan des services publics, et puis évidemment le texte dans les actes du colloque. Sur le plan des services publics animé par Andrieux, il est à noter la transformation du régiment des sapeurs-pompiers qui est dissous en tant que corps militaire, devenant le 2 avril le corps civil des sapeurs-pompiers de la commune de Paris. L'accès au grade d'officier se faisant sur la base d'élection. Dans le secteur des postes, Thiès, est nommé délégué à la direction générale. Il hérite d'une situation particulièrement critique. L'encadrement a disparu, les caisses sont vides, le stock des timbres a disparu et les véhicules postaux ont été acheminés à Versailles avec le matériel. S'appuyant sur la seule conscience professionnelle des facteurs et des agents de recette, Thèse remit le service en état de marche à Paris à peu près en 48 heures. Le service du courrier était rétabli. Mais aussi en direction de la province. Dès sa nomination, il refusa l'indemnité de fonction à laquelle il avait droit, arguant que sa qualité de membre de la commune lui permettait de percevoir 15 francs par jour. Il crée au sein de cette administration un conseil des postes avec voix consultative auquel participent les représentants du personnel. Il est à l'origine de la suppression de la quatrième distribution du dimanche, ce qui était une amélioration des conditions de travail et une revalorisation des salaires est mise en œuvre. À l'imprimerie nationale, l'élection des chefs d'atelier est instaurée et ceci pour lutter contre le favoritisme. Par ailleurs, les ouvriers ont le droit de se réunir par atelier et par métier pour élaborer leurs revendications. La commission des subsistances a vu l'implication de Dereur, Viard, Varlin, Champy, Austin, Parisel. Ce collectif a assuré l'approvisionnement des Parisiens en produits alimentaires, assurant des échanges avec les banlieues. La commission a assuré des livraisons aux arrondissements qui procédaient à une répartition équitable aux membres de la commune de la Garde nationale, aux cantines qui étaient des magasins de distribution gratuite, aux fourneaux, restaurants gratuits également. Les marmites coopératives de consommation créées antérieurement à la commune de Paris, Varlin ayant œuvré à cette activité, offraient également des repas gratuits aux chômeurs et aux nécessiteux. La commission des subsistances a favorisé la création de magasins municipaux, de boucheries, où les prix pratiqués étaient inférieurs à ceux du secteur privé. L'instauration de bons de pour le pain, de bons de pour les repas, pour les chômeurs, a été un levier pour assurer la nourriture au sein de la commune. Ces procédures ont permis d'éviter la spéculation. Arnoux, dans son histoire populaire et parlementaire de la commune, synthétise les propositions de la tendance collectiviste socialiste, précisant que pour eux, la commune de Paris exprimait, personnifiait la première application du principe antigouvernemental, la guerre aux vieilles conceptions de l'État unitaire, centralisateur, despotique. La commune, pour cela, représentait le triomphe de l'autonomie des groupes librement fédérés et le gouvernement le plus direct possible du peuple pour le peuple. À leurs yeux, la commune était la première étape d'une vaste révolution sociale autant que politique, qui devait faire table rase des anciens errements. C'était la négation absolue de l'idée de dictature, c'était l'avènement du peuple lui-même au pouvoir. Les hommes qui sentaient, qui pensaient ainsi, formèrent ce que l'on appellera plus tard le groupe socialiste en minorité. Les membres de la minorité prônent des pratiques fédéralistes, anti-étatiques, solidaires, associationnistes, et parmi eux, les internationaux sont favorables à l'appropriation collective des moyens de production. Les minoritaires plaident également pour la publicité des débats internes à la commune, à l'exception des questions militaires. eux, veulent une forte transparence, non pas le culte du secret, à la différence de la majorité, qui n'entend pas fournir d'indications à la population. Sur le plan de la justice, les anti-autoritaires s'opposent aux jugements expéditifs, aux arrestations arbitraires. En cela, ils sont en désaccord avec les pratiques de la Commission de la Sûreté Générale, dirigée par le blanquiste Raoul Rigaud. Autre point de clivage, les minoritaires sont très attachés à la liberté de la presse, alors que la majorité a pris la décision d'interdire certains journaux réactionnaires et favorables à Versailles. La commune est donc un creuset où des tendances hétérogènes cohabitent, agissant toutes pour la cause révolutionnaire, mais s'investissent diversement sur le plan des tâches à accomplir selon leur idéologie. C'est une force, mais également une grande faiblesse, une entrave à l'émergence d'une orientation homogène. Ainsi, globalement, la majorité jacobine et blanquiste accordait peu d'importance aux problèmes économiques et sociaux, privilégiant les commissions comme la Sûreté Générale, la guerre ou la justice, en cohérence avec sa conception révolutionnaire de la lutte, mais aussi du contexte de guerre civile. Cependant, au-delà des points d'achoppement, une unité réelle existait cependant. Ce souci d'unité apparaît explicitement lors de la dernière réunion de la Fédération parisienne de l'Internationale le 20 mai, qui se tient en présence de 28 sections sur 29 et qui formule un appel à faire tous les efforts pour maintenir l'unité de la commune, si nécessaire, au triomphe de la lutte contre le gouvernement de Versailles. Les communards qui sont alors montés au front n'ont nullement abjuré l'orientation théorique. Simplement, les lois du processus révolutionnaire ont imposé une autre actualité, celle du combat de rue. Les balles versaillaises ont ignoré les concepts qui séparaient l'internationaliste Varlin, le blanquiste Rigaud ou le jacobin de l'Écluse. Voilà, donc c'est peut-être un peu pénible à entendre une lecture comme ça, mais bon, ça a été réécrit ce matin vite fait. Donc, à vous écouter.
Et puis, bon, dans le livre, il y a aussi toutes les références, les citations et les personnes qui sont évoquées, qui figurent en note, hein, bien entendu.
Raphaël a été assez muet, mais vous l'entendrez largement tout à l'heure, donc c'est pas forcément important. Vous avez peut-être des questions à poser donc sur le rapport des internationalistes anti-autoritaires et à leur activité durant la Commune de Paris, hein, sachant qu'après la Commune, ces militants continuèrent à œuvrer pour ceux qui n'avaient pas été malmenés, fusillés ou déportés par les tiristes.
Oui, Auguste Blanqui, encore lui, a été emprisonné dans la baie de Morlaix au château du Taureau.
Ouais, effectivement, Blanqui a été emprisonné. On a voulu l'échanger contre l'archevêque de Paris, et Thiers n'a pas voulu. Il a préféré garder Blanqui que son archevêque. Je ne sais pas si c'est un signe, mais c'est toujours intéressant. Qui voulait la parole, donc ?
Oui, là, tu viens de nous évoquer qu'à un moment donné, les minoritaires ne participent plus, et puis ils vont revenir le 20 mai, hein, c'est ça ?
Le 17 mai.
Le 17 mai, bon, excuse-moi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Enfin, ils ne sont plus là, d'accord, mais... moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Peut-être que c'est justement ce que tu as coupé dans ton intervention par rapport à l'écriture.
Non, mais je crois qu'à ce moment-là, il y a un choix qui est fait des minoritaires, c'est de se replier sur le concret. Et le choix qui est fait, c'est de dire on déserte cette instance qui relève d'une attitude de putschiste, en fait, de vouloir prendre la direction du mouvement et de l'imposer au peuple. Et le choix qui est fait des minoritaires, c'est de se replier. On a évoqué ce matin le choix par rapport à des gens comme Varlin d'être à l'intendance et de se replier sur les arrondissements pour faire un travail local auprès de... Je crois qu'ils emploient même le terme, de, au niveau de la garde nationale, etc., de déserter ce lieu qui n'est plus le leur. Bon, alors après, est-ce que c'est une erreur ou pas ? Il y avait des tâches aussi à assumer, sans doute ailleurs. Maintenant, que faire dans une collectivité où il y a des tendances et on est minoritaire à un moment donné ? Bon, c'est les questions qui sont posées là, parce qu'on a peut-être oublié de le dire vite fait au début, mais nous, on a essayé d'approcher. C'est pas un travail d'historien qu'on fait, c'est un travail de militant. Donc, on se penche sur l'histoire d'hier pour un peu mieux lutter modestement aujourd'hui dans un contexte différent. Mais les questions qui sont posées, justement, par rapport à cette attitude des blanquistes qui sont, de fait, d'ailleurs, Lénine, quelques décennies plus tard, va saluer Blanqui en disant « il a quand même fait une connerie, il n'aurait pas dû prendre comme titre de son journal La Patrie ». Parce qu'il y a aussi toutes ces questions-là qui sont derrière. Mais ces questions de minorité agissante, c'est des questions qu'on retrouve dans les luttes aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'un cortège de tête ? C'est un cortège qui se met devant. Un cortège de tête, est-ce que c'est une avant-garde ou pas ? C'est des questions tout à fait... certains ont d'ailleurs qualifié ce positionnement de blanquiste. Mais c'est un peu ces questions-là. Et donc, les minoritaires n'avaient pas d'autre choix, je pense, que de... Et en plus, ça correspondait à leur démarche. C'est pas par hasard si les blanquistes prennent ce qu'on appellerait toutes les fonctions régaliennes et la communication. On les retrouve à la police, on les retrouve à la guerre, et en plus, ils virent les bons qui sont à la guerre pour prendre les mauvais, et on les retrouve à la communication, au journal officiel, si ma mémoire est bonne, hein, si je dis une connerie, c'est possible. Mais voilà, donc je pense qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Maintenant, je ne suis pas là pour juger, hein, mais est-ce que ça a été un affaiblissement au niveau... dans la mesure où il n'y avait pas d'homogénéité, parce que c'est... j'en parlais peut-être un petit peu tout à l'heure, mais l'orientation des internationalistes était d'essayer d'avoir un objectif homogène pour essayer d'avoir des buts de rassembler. À partir du moment où ils sont minoritaires, victimes d'un putsch, éliminés de tous les mandats qu'ils avaient, pas éliminés par la base, quoi, mais donc ils font le choix de travailler pratiquement sur les quartiers, dans la garde, sur les... Voilà, c'est un peu ça. J'ai peut-être pas été complet, mais bon, c'est la réponse en tout cas.
Oui, je crois que pour les minoritaires aussi, c'est le fait de retourner vers leur légitimité. C'est-à-dire que ceux qui les ont nommés, ceux qui les ont fait fonctionner, c'est les quartiers, ils retournent à l'endroit où ils sont légitimes, contrairement aux blanquistes qui fonctionnent dans un système représentatif. Rappelons quand même qu'on doit à Blanqui un mot d'ordre tout à fait intéressant qui est ni Dieu ni maître. Hein, faut quand même pas. Il l'a peut-être pas fait exprès.
Non, non.
On ne sait pas que c'est nous qu'en hériterions, mais reste que celui qui l'a dit.
Non, mais juste, hein, quand on parle là des blanquistes, on parle des blanquistes sans Blanqui.
Avec Blanqui, ça aurait peut-être été pire.
Ah bah. Ça, je te
laisse. Alors, moi, j'avais bien compris qu'ils revenaient sur la base, sur leurs fondamentaux. Mais finalement, les activités pour lesquelles ils avaient été nommés, elles ont été reprises par les blanquistes ou elles ont été complètement abandonnées ? C'était plus ça, ma question.
Non, les commissions ont été réinvesties par des blanquistes et les jacobins.
Voilà, c'est ça. C'est ça qui, aussi qui est important à dire, il me semble. Merci.
Voilà, quelqu'un souhaite une question ou une intervention ? Donc, je me promène dans les gradins pour les auditeurs. Je leur dis, je prends des risques terribles. Il faut que j'accède au troisième étage du lycée autogéré de Paris.
C'est une simple question. Est-ce qu'il y a une différence entre appropriation collective des moyens de production et propriété des moyens de production ? Appropriation collective, c'est pas propriété. C'est anodin ou c'est synonyme ?
C'est pas anodin. S'approprier quelque chose, c'est que parce que c'est quelque chose qui était à quelqu'un d'autre.
Non, mais propriété, ça peut renvoyer à un individu qui est propriétaire de. Appropriation collective, c'est-à-dire que c'est le collectif qui se réapproprie quelque chose qui appartenait à un ou à plusieurs.
Le collectif s'approprie la propriété d'un individu.
Ou d'un autre collectif, sait-on jamais. Voilà, donc une intervention de Marie, je crois, qu'on connaît depuis hier matin.
Moi, c'est intéressant cette question de la propriété, parce que moi, j'ai une petite expérience de vie en autonomie, en tout cas de tentative de vie en autonomie et de penser une société égalitaire, où il y avait une confusion qui était faite entre la propriété, jusqu'où on redistribue, quoi. Est-ce qu'on prend en compte la propriété individuelle et qu'on la dissocie de la propriété collective, parce que finalement c'était un vrai écueil et c'était une vraie source de conflit, quoi, cette question de finalement qu'est-ce qui appartient à qui et qu'est-ce qui peut m'appartenir individuellement sans que ça pose de problème à la communauté.
Les Proudhoniens, dans leur grande sagesse, et pas seulement, avaient déjà un peu répondu à ces questions-là. Ils parlent de propriété d'usage. En gros, tu as quelque chose dont tu peux user, mais que tu remets à la collectivité quand tu disparais. Comme on le fait d'ailleurs dans certaines sociétés premières, où effectivement les terres reviennent à la communauté quand tu décèdes. Et par ailleurs, ce que considèrent aussi les Proudhoniens, c'est que quand, et on a vu ça en Espagne aussi entre 36 et 39, si tu es un artisan, tu possèdes ton outil de production, tu peux continuer à le posséder et à travailler, à condition de n'exploiter personne. Donc je pense que les questions se posent à peu près comme ça encore aujourd'hui.
Juste pour un complément, c'est par rapport dans les débats de l'international avant, il y a quand même les positions de Bakounine, par exemple, pour supprimer l'héritage. C'est-à-dire que c'est une remise en cause aussi de la propriété individuelle, qui n'est pas retenue, mais c'est dans les débats.
C'est de la redistribution. C'est-à-dire j'en profite pendant mon temps d'usage, et je le remets au collectif, comme ça s'est fait dans d'autres lieux. D'autres interventions sur ces questions-là. Donc, je grimpe au deuxième étage, cette fois-ci. C'est l'escalade permanente.
Oui, une question rapide, mais il me semble quand même que dans la période là, de 71, il y avait déjà eu une répression assez forte contre la Première Internationale. Ce qui fait que les militants, l'international était relativement, je dirais pas désorganisé, mais en fait était déjà affaibli. Est-ce que je me trompe ?
Oui, non, tu ne trompes pas. C'est un point que j'aborde après, l'état de l'international au moment de l'insurrection, quoi.
Voilà, et puis des procès qui sont antérieurs.
Je vais développer un petit peu après ça. C'est la réalité à la fois parisienne et sur le plan du territoire, et même des relations avec les autres sections étrangères. Quoi.
Voilà, autre question ? Autre commentaire ? Non ? Nous passerions au deuxième thème.
Moi, j'ai une question aussi,
bah, vas-y.
Qui peut soulever débat. Dans l'exposé qu'on fait, il pose le problème de... Les minoritaires disent... oui, à la liberté de la presse contre-révolutionnaire. Est-ce que c'est des choses qui nous semblent évidentes à nous, par exemple ? C'est-à-dire que ça s'est posé aussi après en Russie, etc. Mais eux, ils disent clairement la presse versaillaise, pratiquement favorable aux Versaillais, doit exister. Ça, c'est un vrai débat sur en pleine période de guerre révolutionnaire.
Oui, ils peuvent peut-être faire l'hypothèse que cette presse ne sera pas lue ou peu lue et qu'elle va finir par disparaître économiquement plutôt que de l'interdire, qui crée toujours des résistances. Donc là aussi, c'est peut-être aussi une finasserie pour dire cette presse va mourir de sa belle mort, quoi. Et c'est la question de la liberté de l'expression. Est-ce qu'on les laisse tous s'exprimer ou pas ? Vieux débat. Heureusement que Jean-Pierre n'est pas là et vous aurez donné son avis, mais il fait le... Il assure notre sécurité aujourd'hui. Donc, d'autres interventions, éventuellement sur la question que pose Raphaël, de la liberté d'expression. Doit-on laisser la liberté aux ennemis de la liberté ? Parce que c'est comme ça que ça se prononce. Hein ? Qu'en penses-tu, Raoul ? Rien du tout.
Ça s'est posé concrètement il y a quelques années par rapport au Front National, où il y a des gens qui ont signé des pétitions pour interdire au Front National d'exister, demandant sa dissolution.
La savoir si on a une posture blanquiste, on dit on interdit, ou une posture éducationniste, en disant on éduque, et puisqu'ils auront été éduqués, soit ils ne liront plus, soit ils liront de manière critique.
Pour moi, la limite, bon, tout peut être dit, et donc tout doit pouvoir être disponible. Mais la limite, c'est quand même l'appel au meurtre, l'appel au viol, l'appel à, enfin, je sais pas, à la torture, enfin, tout ça. Aujourd'hui, moi, je regrette, mais les gens qui appellent au meurtre, à la torture, au viol, ceux-là, on doit faire en sorte qu'ils ne peuvent pas le dire. Ou alors, et c'est ce que un certain nombre d'organisations font, c'est au moment où ils les disent, mais ils sont devant la salle de meeting et tout ça, et qui disent aussi leur position. Mais en tout cas, l'appel au meurtre, au viol et à la torture, moi j'ai un peu de mal avec ça. Voilà. Mais après, tout le reste peut être dit, ça c'est sûr.
On blanchit pas Radio Libertaire parce que c'est une radio noire et rouge, comme il se voit. Est-ce qu'on passe au débat suivant ? Est-ce que vous en êtes d'accord ?
Bah,
tu passes une pause musicale peut-être quand même, Monique ? Ça va nous aérer l'esprit.